Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien au Capi Service. La corruption a touché presque tous les secteurs de la vie en RDC, surtout dans l'administration publique. Certains fonctionnaires excellent dans les monnayages et dans les trafics des documents administratifs à des prix exagérés. Ils rendent complexes certaines procédures afin d'en tirer des jetés pots des vins. Quels sont les méfaits de cette pratique érigée en mode de fonctionnement depuis des années dans l'administration publique de la RDC? Pour en parler, nous recevons dans ce studio le professeur Augustin Mwendambale. Nous rappelons qu'il est directeur de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Bonjour professeur.
Bonjour Tati.
En quelques mots, quels sont les objectifs assignés à l'OSEP par l'État congolais?
Bon, l'État congolais a assigné à l'OSEP 5 objectifs principaux. D'abord, préciser à l'intention des agents publics de l'État les règles de conduite et de bonne gouvernance pour la gestion de l'appareil étatique. Favoriser l'amour du travail bien fait, c'est-à-dire sans entacher d'irrégularité des antivaleurs. Apprendre à l'agent public de l'État se familiariser avec ses règles de bonne conduite. Lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption, la concussion, et je passe. Pour votre information, l'OSEP a déjà été transformé en observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, il y a 2 ans. Donc ce n'est plus le code d'éthique professionnelle datant. Et l'OSEP ne s'adresse pas seulement aux fonctionnaires de l'administration publique stricto sensu, mais à l'ensemble de tous les agents publics de l'État. Donc, le code ici concerne et le président de la République, le premier ministre, les membres du Parlement, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs des FARDC et de la police, les ambassadeurs, le mandataire de l'État, jusqu'au petit huissier. Et je dirais, même à un expatrié, s'il vient exécuter une tâche pour le compte de l'État et il est payé par les trésors publics, il est assujetti aux dispositions de ce code. Donc bref, ce code s'adresse à tout agent public de l'État. Agent entendu au sens de toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui exercent une activité pour le compte de l'État et qui est payé par les trésors publics.
Et à ce sujet, vous faites le monitoring permanent sur les questions liées à l'éthique, à la déontologie et au mode de fonctionnement de l'administration publique?
Effectivement, c'est ça notre job, un job qui n'est pas du tout facile. Surtout que nous ne sommes pas arrêtés au niveau de la description de l'éthique, de la déontologie et le professionnalisme. Nous sommes allés jusque à développer un certain nombre d'antivaleurs qui sont tellement criantes pour le moment au sein de notre administration en général. Je ne vais pas parler de la fonction publique ici, parce qu'il faut que les députés sachent, les sénateurs qui sont des agents publics de l'État, que les membres du gouvernement sachent également qu'ils sont
des fonctionnaires
publics,
de l'État,
agents publics de l'État. Alors, j'aimerais ici attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que ces codes concernent 17 catégories socioprofessionnelles de l'État, des agents d'État. Je veux dire, il y en a 17. C'est un code d'éthique institutionnelle. Et ces conditions de naissance ont été édictées par les exigences des bailleurs de fonds internationaux quand la RDC sollicitait une enveloppe pour permettre le développement ou l'enclenchement des réformes de notre administration. Une des conditionnalités était, il faut d'abord, monsieur le président de la République, que la RDC soit dotée d'un code de conduite de l'agent public de l'État. Et à côté de ce code de conduite, il faut qu'il y ait un organe de contrôle et de mise en œuvre de ce code de conduite de l'agent public de l'État. Voilà la volonté politique du chef de l'État s'est manifestée.
Et j'ai sur moi les documents en question, les codes de conduite de l'agent public de l'État. Je vais lire un article. À son article 8, il est dit ceci, il est stipulé ceci. À son entrée en fonction, l'agent public de l'État doit prendre connaissance du présent code et les responsabilités du service de recrutement doivent s'assurer que celui-ci l'a lu et compris et s'est engagé par écrit à s'y conformer.
Correct.
Et oui, donc, est-ce que vous vulgarisez ces codes d'éthique
Le code a été vulgarisé.
Auprès des agents de la fonction publique.
Oui, vulgarisé suffisamment. Et plus d'un million d'agents publics de l'État ont été vulgarisés. Mais il y en a encore d'autres qui ne sont pas vulgarisés parce qu'il faut des moyens. Pour entrer dans les entités décentralisées, il faut absolument entrer jusqu'au niveau de territoire, jusqu'au niveau des collectivités, de manière à ce que tous les agents puissent avoir une compréhension commune des questions de valeurs et d'antivaleurs.
Qu'est-ce qui se dégage sur terrain, professeur, en ce qui concerne vraiment la corruption? Parce que dans l'administration publique, c'est reconnu que la corruption gangrène presque tout le secteur. Aucun domaine n'est épargné.
Vous avez raison, Tati. La corruption n'a pas de port. Il accoste partout. Et ça, il faut l'avouer, ce n'est pas seulement dans notre administration. C'est pour ça que nous avons insisté. Même les membres du gouvernement sont passés par une formation, un séminaire qu'on appelle d'immersion valeurs éthiques. Le gouvernement Matata, nous sommes réunis à Zongo, nous avons présenté le module aux membres du gouvernement. Ils ont signé leur acte d'engagement éthique. Le gouvernement Tshibala également, quand il est arrivé à la cité de l'OIA, ils ont mêmement suivi les enseignements sur les codes de conduite de l'agent public de l'État et ils ont signé leur acte d'engagement.
Oui, mais dans la pratique, rien n'a changé, professeur. Sur terrain, rien n'a changé.
Oui, vous pouvez dire que rien n'a changé, c'est-à-dire la lutte contre les antivaleurs est un long processus qui ne peut pas être évalué en termes de temps ni de durée. Vous savez, l'exercice de transformation, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle aboutit. Quand elle arrive maintenant à faire sortir les résultats escomptés. Ce n'est pas parce que j'ai dit aujourd'hui non, mes enfants, vous ne devez pas voler la nourriture dans la maison, que le même jour les enfants vont laisser. Il faut que cette éducation, ces enseignements soient répétitifs, soient suivis et des effets, des sanctions. Il ne suffit pas de dire vous avez encore volé et vous rigolez. Mais vous avez encore volé, la chicotte essuie. Soit il y a privation de repas, je regrette beaucoup, pour un jour, un repas, deux repas, pour que l'enfant puisse prendre conscience quand même
de ses erreurs.
Et c'est comme ça que nous devons avancer. Mais je vais vous dire, nous avons rencontré pas mal de difficultés. Il y a des gens qui nous ont dit, vous allez manger votre éthique. Si je vous disais dans quel état nous travaillons aujourd'hui, dans quel bureau, combien de locaux nous avons, avec un personnel de 70 personnes, vous allez vous étonner. C'est comme si ce n'était pas une structure de l'État.
L'OCEP est représenté partout à travers les pays
L'OCEP est représenté dans 10 provinces. Et il reste peut-être pour les nouvelles entités, les nouvelles provinces, où nous devons
dans l'ancienne configuration, c'est ça.
Dans l'ancienne configuration. L'OCEP est présent partout, est représenté par un directeur de province, accompagné ou assisté de 5 collaborateurs.
D'après vous, professeur, quels sont les facteurs qui exposent les fonctionnaires à la corruption?
Nous avons mené des enquêtes, je mérite être plus pratique, ne pas développer des théories ici. Et dans ces enquêtes, nous avons posé la même question. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez avoir une propension aux pratiques de corruption? Les agents ont aligné 4 grandes causes possibles. Il y a de premier, on dit, c'est suite à la pauvreté. Et moi, je récusais cette proposition parce que j'estime nos parents ont été pauvres, nos grands arrière-parents. Pour autant, ils ne sont pas livrés aux pratiques de corruption telles que nous le faisons. D'autres estiment que non, c'est suite à la médiocrité des salaires.
La modicité des salaires.
Je suis en voie de leur dire oui et non. Oui, parce que si vous n'êtes pas bien payé, vous serez tenté de vous servir à la source. Non, je veux dire, il y a des gens qui touchent gros. Des ministres, des mandataires de l'État,
des députés,
des parlementaires. Mais pour autant, ils n'ont pas renoncé aux pratiques de corruption. Et la troisième raison qui a été avancée, la troisième cause, au cours de cette enquête, plusieurs enquêtes que nous avons organisées, il y a ce qu'on appelle l'impunité. Moi, je crois plus à ce dernier argument d'impunité. Dans une maison, il y a de l'ordre, ou vous voulez avoir l'ordre et la discipline, quand vous avez un papa ou un père fouettard, les enfants ont peur. Ils se soumettent facilement. Si vous avez affaire à un père gâteau, vous volez, vous cassez, il applaudit, et c'est tout à fait normal que le désordre va continuer, le dysfonctionnement sera toujours au rendez-vous. Voilà autant des problèmes qui se posent, et il y a plusieurs raisons. Il y a aussi l'allégeance à la famille nombreuse, nos enfants d'abord à l'université, on dit ça, c'est pas pour paraphraser le président Tshisekedi qui dit « le peuple est d'abord ». Il a été transformé, le peuple d'abord, par le slogan « nos enfants d'abord » dans les universités. Tous les professeurs veulent que leurs enfants les remplacent à la longue. C'est-à-dire, on va créer une société où il y a trop d'inégalités, où les enfants des pauvres resteront pauvres, les enfants des gens sans moyens resteront au service des enfants des gens qui sont nantis, et c'est ça.
Le tableau est le même sur le terrain politique, social, c'est presque pareil.
Même, vous commencez à voir des présidents où le député est là, le suppléant c'est sa femme, le deuxième suppléant c'est son fils, et vous allez arriver au quatrième suppléant, le petit-fils. Donc nous sommes en train de créer un monde où la corruption, le népotisme, le tribalisme occupent une place de choix au niveau de valeur de référence. Or, c'est juste le monde à l'envers.
D'après les enquêtes que vous menez sur terrain, est-ce qu'il vous est arrivé de pouvoir mettre la main sur des corrupteurs et des personnes qui ont été corrompues et puis vous les avez déférées devant la justice?
Oui, il y a eu des gens qui ont été attrapés le main,
dans les sacs.
En flagrance, et ceux-là ont été attendus pour les agents publics de l'État, ont été attendus au niveau du conseil de discipline, qui a eu à prendre une série de mesures, des révocations, et d'autres ont été traduits selon la taille de la corruption perçue.
Dans cette émission, les auditeurs interviennent pour poser des questions. Donc, nous allons donner la parole à la première vague des auditeurs qui appellent à travers les pays. Je rappelle les numéros si vous êtes intéressé par cette émission qui table sur la problématique de la corruption en RDC. Appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-6394, numéro 081-890-6394.
L'actualité en profondeur sur Radio Caprice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Merci de rester branché à Radio Capi. Dans Capi Service, nous parlons de la problématique de la corruption, comment lutter contre la corruption dans l'administration publique de la RDC. Nous allons donner la parole au premier auditeur. Il s'appelle Patient. Il intervient depuis la ville de Lubumbashi. Patient, bonjour.
Chers journalistes, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi. Beaucoup qui vous appelle depuis Lubumbashi.
Merci beaucoup, Patient. Qu'est-ce que vous avez à nous révéler?
D'accord. Avant de donner mes questions à notre invité, je vais d'abord quand même déplorer pour la RDC. La fois passée, la RDC avait occupé la troisième place pour la corruption pour tous les pays du monde entier. C'est regrettable, messieurs les journalistes. Alors, vous avez quand même compris, notre invité vient de nous donner quand même quelques points qui ordonnent, par exemple, que quelqu'un puisse corrompre. Par exemple, quand il a dit de la pauvreté, le salaire, l'impunité. Bon, moi, d'abord, je commence par ceci. Par exemple, dans nos écoles, quelqu'un, un professeur qui ordonne aux élèves de corrompre. Voilà il ne donne pas bien cours. Donc il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, même dans tous les domaines administratifs. Voilà, alors il faut quand même prendre des mesures. Il faut qu'il y ait un suivi. Vous voyez par exemple un professeur qui ne donne pas cours, il s'attend à ce que les élèves puissent corrompre. Pour, là, il donne le temps gratuitement. Il oublie que les enfants, là, un jour, il y a un enfant qui peut devenir un jour président de la République, un jour un professeur comme lui. Alors, quand il n'est pas bien formé, voilà que ce professeur n'occupe vraiment pas cette place. Donc, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après, je vais encore dire ceci. Par exemple, le problème du salaire. Quand vous regardez bien, quelqu'un qui est bien payé, mais qui attend. Là, nous allons comprendre très bien que là, il y a encore un problème là de tribalisme. Pour maintenant, il faut, même si tu n'es pas, tu es bien payé et que ton ami travaille là-bas, et tu n'as pas vraiment une formation digne de travailler à cette fonction, tu vas partir là, on va pas, bon, c'est mon ami, j'étais le plus engagé. Quelqu'un, membre de famille, c'est un engagé, voilà, alors c'est le tribalisme. Alors, il faut quand même prendre des dispositions. Notre invité doit d'abord spécifier tous ces cas-là pour quand même élargir nos relations avec, dans les domaines administratifs. Merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie, patient. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Cette fois-ci, allons à Kindu pour donner la parole à Maître Abedi. Maître Abedi, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de Radio Kati.
À vous l'antenne, quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Peut-être que je n'aurai pas de questions à poser à l'invité, peut-être une contribution seulement à cette émission.
Allez-y.
Ça fait aujourd'hui beaucoup de temps que sur la Radio Kati, notre chère radio, il y a beaucoup d'émissions qui se passent sur la corruption. Et nous ne cessons pas de les décrier parce que c'est un fléau... très, 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 très mauvais. Vous savez, à l'échelle mondiale, la RDC est placée parmi les pays les plus corrompus. Et ça ne donne pas une bonne,
image de la RDC, pays. À l'échelle internationale. Ouais.
Mais ce que je pense plutôt, c'est que c'est vrai qu'il faut combattre la corruption. Je suis tout à fait d'accord avec l'invité quand il dit que le plus grand problème qui fait perpétrer la corruption et la... et continuer à la pousser vers le haut dans la RDC, c'est beaucoup plus l'impunité.
L'impunité, oui.
C'est ça le problème. Et donc, il ne suffit pas seulement de dire qu'il y a eu corruption, il ne suffit pas de dénoncer. Il faut que les instances judiciaires se saisissent de la corruption. Si on peut rentrer dans les cas concrets actuellement avec ce qui se passe dans les élections, ça me met mal à l'aise que le procureur général de la République près la Cour de cassation crie seulement qu'il y a des soupçons de corruption sans qu'il ne trouve personne à inquiéter. Il faut d'abord qu'il y a des arguments. Il y a ceux qui disent qu'il y a des messages qui sont passés. Il y en a qui ont des preuves de messages, de ceux qui partent réclamer les fonds qu'ils ont donnés parce qu'ils n'ont pas été élus. Il y a des faits un peu partout dans le province de la RDC. Mais où est-ce que le procureur s'est saisi d'office? Lui, il est le patron de l'action publique. Et dès qu'il y a des preuves, il y a des commencements de preuves, même pour des raisons d'enquête, il faut qu'il se saisisse de certaines personnes. Comme ça, ce seront là des signaux forts qui vont décourager les autres à se livrer à la corruption. Vous savez, le musée Laurent-Désiré Kabila, quand il est entré au pouvoir, nous avons vu comment il traquait les personnes qui étaient coupables de détournement de fonds ou de gens comme ça. Et ça, directement, on se saisissait de ces personnes, les ridiculisait, et c'est là, c'était des signaux qui faisaient peur aux autres de ne pas se livrer à la corruption. Pour terminer, tout ce que je voudrais dire encore, c'est que, vous savez, avant de combattre la corruption, il faut d'abord remonter aux origines, il faut remonter à la source. Qu'est-ce qui fait que les pays soient classés parmi les plus corrompus au monde? Quand quelqu'un veut corrompre, généralement, c'est qu'on veut chercher une faveur. On cherche une faveur pour être engagé. Par exemple, si vous pouvez regarder la RDC, je n'encourage pas de toutes les façons. Mais s'il faut regarder l'engagement dans ces pays, combien de personnes ont besoin d'un emploi? Le taux de chômage est tellement élevé et que quand quelqu'un trouve l'occasion de se positionner, c'est lui qui veut octroyer de l'emploi aux travailleurs. Il est dans une position très dominante et qui l'oblige d'une ou d'une autre façon, ceux qui veulent tirer profit de ce boulot à aller corrompre. Il suffit seulement que le pays, il suffit seulement que le gouvernement soit en mesure de donner le plus grand nombre possible d'emplois, qu'il soit en mesure de créer le plus grand nombre d'emplois. Comme ça, les gens vont entrer dans des compétitions et ceux qui méritent d'avoir travaillé vont travailler. Chacun va travailler selon ce mérite. Mais quand il y a trop peu d'emplois, et tout le monde connaît que quand on entre dans l'emploi, c'est là où on va gagner de l'argent et qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'entrer par la corruption. Voilà, les gens sont exposés à la corruption.
Merci beaucoup Abedi pour ta contribution, je dirais. Allons cette fois-ci à Mandaka pour donner la parole à Platini. Platini Momo, bonjour.
Platini, bonjour. Bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde.
À vous la parole Platini, allez-y.
Merci beaucoup, Tati. Avant de poser ma petite question, je voudrais quand même enregistrer une petite suggestion par rapport à cette émission. Vraiment, c'est déplorable et dommage d'attendre la RD Congo, qui est classée au monde, par le dernier pays, le premier pays même qui est corrompu. Et la thématique d'aujourd'hui, problématique de la corruption RDC, Tati, je crois que c'est un problème de moralité. Vous savez, quand on corrompt quelqu'un, il faudrait avoir une sens et convaincre pour que ces gens-là soient aussi corrompus, mieux aussi de l'autre côté. Et s'il se pose un problème à des Congo, l'invité a dit, il a fait allusion, hein, la médiocrité du salaire, il a mis le salaire, il y a tout, les gens ne vivent pas très bien tout ça, je ne sais pas que les gens sont corrompus. Mais, aller dans un petit pays comme Rwanda, Burundi, Tanzanie, Nigeria, ici même à face au Congo-Brazza. Là-bas, bien sûr, même si les gens vivent, hein, les gens n'ont pas la culture de la corruption. Et chez nous, il n'y en a pas. Même le policier qui est censé sécuriser la population avec leur bien, même lui sur le corps, on lui envoie un policier d'aller à prendre les personnes, d'aller au niveau de l'auditorat ou pas. Quand il trouve cette personne-là, il dit que non, mon frère, prends sa place. Et les policiers, là, c'est les personnes, même les policiers, même les magistrats, même les gens qui ont censé pour régulariser, ils sont aussi corrompus. Donc, c'est un problème de moralité qui est chez nous, le peuple congolais, qui se trouve aussi à toute l'étendue de la vie de volonté du Congo. Et moi, je voudrais que l'invité qui est là-bas au studio avec vous, pour ce faire des missions de sensibilisation, surtout dans le domaine public de l'État. Quand on voit le chef de division, on voit le secrétaire général, tout, même les gens qui ont de grands diplômes, ils sont aussi corrompus. Même les professeurs de l'université, un enfant vient comme ça, il n'a pas intelligent, il n'a pas un signe, il lui a donné 100 $, 200 $, ou même 9/10. Mais le but, c'est le corrompu. Je crois que vous avez un problème de moralité et nous devons. Nous devons faire effort pour changer sur la mentalité. Tati Maputo, regardez ce qui vient nous arriver. On a passé l'élection du sénateur, tout ça. Et maintenant, le président de la République, il dit quoi? Hein? Il a sursaut parce qu'il y a un problème de corruption, tout ça. Et maintenant, là, tout un pays, tout un continent comme la République du Congo, nous sommes bloqués parce qu'on attendait le 26. Il faudrait avoir le nouveau gouverneur, il faudrait avoir le nouveau. C'est le niveau sénateur, tout ça. Mais nous sommes maintenant bloqués. On doit qu'on le voit, il faut qu'on descende sur le terrain, tout ça. Maintenant, le pays est bloqué. Alors, pour ne pas aller vraiment trop loin, je voudrais quand même poser une petite question à l'invité.
Allez-y rapidement.
Si l'invité peut l'expliquer, le CEP, parce que si Mbandaka, c'est tout le monde tombé pour attendre le niveau CEP. Je ne sais pas si Mbandaka, ça c'était où. C'est le bureau de service pour parce que je suis dans la ville de Mandaka, je n'ai jamais entendu ces noms-là. Et le frère s'occupe de qui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'administration publique de l'État. Quand on parle des députés provinciaux, les députés nationaux, tout, ce sont des gens qui ont des fonctions de l'État congolais. Mais le frère s'occupe de quel type de gens? Est-ce que le frère s'occupe seulement chez les chefs de division ou bien s'occupe dans tout le.
Merci beaucoup Platini. Merci beaucoup Platini pour ta contribution et nous retenons ta question. Le professeur Augustin Wendambale va répondre à ta question. Pierrot, vous êtes à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez à nous révéler, Pierrot?
Bonjour, c'est Pierrot Pagnin. Je suis très content d'ici avec les analyses de mes prédécesseurs de l'invité et qui sont très assaisonnés. Alors, j'aimerais demander à l'invité d'abord, avant de procéder à mes analyses.
Rapidement, s'il vous plaît.
Dans la lutte contre la corruption, est-ce que ce que les employés disent dans leur travail, qu'ils travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel, c'est une parole qui est là pour lutter, ou c'est une façon de se faire corrompre, ou c'est aussi une façon de parler pour trouver de l'argent? Alors, j'aimerais poser une question. Ici à Lubumbashi, où je vis, je vous dis que c'est trop pire. Nous considérons que c'est là où la corruption a atteint la barre, où on voit tout. Vous pouvez imaginer, vous payez peut-être un taxi d'ici. Il suffit seulement un officier de la police, de la circulation routière, vous lui donnez ce bus-là. Donc, vous allez commencer à lui donner l'argent peut-être chaque fin de la semaine, et ce taxi-bus-là va lui appartenir. Là où ça va travailler, personne n'a droit de saisir ce taxi-bus, même s'il faisait des accidents. Alors, là, nous voyons que d'abord, c'est le sommet qui est pourri avant d'aller toiser d'autres personnes. Vous voyez, même ici à Lubumbashi, il y a un cas récent. Un enfant qui demandait à son père chaque fois, c'était un enfant de la maternelle. Chaque fois, papa, on m'a demandé à cet enfant. Chaque fois, papa, on nous demande de la banane. Mais un enseignant qui les encadrait à l'école, là, il demandait seulement la banane, seulement des choses à manger là. Mais l'enfant, quand il amenait ces choses-là, l'enseignant donnait les exemples. Verbe manger. Vous pouvez conjuguer le verbe manger au temps présent. Il dit, je mange la banane. Exemple, il ne donne pas les enfants cette banane-là pour manger. C'est lui-même qui prend cette banane-là. Il dit, je mange la banane. Donc, nous avons la corruption dans tous les sens-là. Alors, j'aimerais demander ma question pour terminer. Est-ce que, comment on peut dire, quand un député venait faire la campagne et il corrompait la population. Alors, quand il prend aussi l'argent d'un sénateur, on peut dire que c'est le député qui a un problème, ou la population qui a donné la chance à ces députés d'être votés là et aussi complice de cette corruption-là. Quand le dire est bon, le facile n'a pas de profit.
Merci beaucoup, Pierrot. Je rappelle que vous intervenez depuis Lubumbashi. Allons cette fois-ci à Kindu pour donner la parole à Omari. Monsieur Omari, bonjour.
Oui, bonjour, les auditeurs de la radio.
Allez droit au but. Quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Oui, d'abord, je vous remercie d'abord de m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que le problème de la corruption, ce n'est pas dans d'autres provinces, mais plutôt ici dans la ville de Kindu. On a observé aux élections des députés provinciaux ici, comme les cas, bon, on ne peut pas citer le nom de quelqu'un, mais il y a un ministre des Finances qui a été un peu dépassé dans des voies marronnettes. Il a essayé un peu aussi d'envoyer le militant dans le riz, et ils ont essayé de tracasser les gens. Les jours aussi des votes, ils ont essayé d'envoyer les gens. Ils ont essayé de prendre aussi les voix d'autrui, et il a mis dans son compte. Et la CENI n'a pas réagi sur ça. La maman là a essayé de réclamer tout cela, mais ça n'a pas quand même abouti à une solution. Mais plutôt aussi pour le cas de l'ancien gouverneur Pascal Toutou Salumu, avec Tunda Prosper Lukali.
Monsieur Omari, s'il vous plaît, on ne cite pas des noms. Monsieur Omari, il ne faut pas personnaliser le débat. Nous sommes en train de parler de la corruption. Allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Maintenant, ma question est celle-ci.
Oui.
Est-ce qu'on va sanctionner seulement les sénateurs ainsi que les députés? Et pour les présidents de la République, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Merci beaucoup pour ta question. Le professeur va répondre à votre question. Revenons à Kinshasa pour donner la parole à M. David. Bonjour.
Oui, bonjour, je vous appelle depuis Kinshasa.
À vous la parole, David.
Allô?
Oui, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît.
Je vous appelle depuis Kinshasa. Je salue de passage monsieur le professeur Augustin Mwendambali. Alors, j'ai vu les travaux qui sont en train d'abattre sur débattre sur le terrain par rapport à la sensibilisation des agents et carrières des services publics de l'État. Et nous avons vu le travail de l'OCEP en tant qu'agent public de l'État. Alors, ma question est celle-ci. Professeur Augustin, ne trouvez-vous pas qu'il y a nécessité de créer une commission indépendante de lutte contre la corruption qui, elle, peut être plus efficace que l'OCEP? Donc voilà un peu la question que j'avais à poser au professeur.
Merci beaucoup, David. Professeur, on peut commencer par David.
C'est volontiers, monsieur Tati.
Oui.
Alors, je vais y aller tout droit au but. L'OCEP est né d'une triple exigence, j'ai dit. Les bailleurs des fonds ne pouvaient pas donner un crédit, allouer un crédit à la République démocratique du Congo pour diligenter les réformes diverses qu'il avait à entreprendre, ça qui est une conditionnalité. C'est-à-dire que les bailleurs ont observé que chaque fois qu'on donne de l'argent à la République démocratique du Congo, les rapports qu'on présente sont toujours défavorables. L'argent a été volatilisé.
L'argent a été mal utilisé.
Ce sont les dirigeants qui s'en accaparaient ainsi de suite. Voilà raison pour laquelle le Fonds monétaire international, même les États-Unis, il faut bien, je pèse bien mes mots, ont demandé qu'il y ait un code de conduite avant de donner une quelconque aide à la RDC. Voilà comment est né l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. C'était pour accompagner la troisième réforme suite aux exigences posées par les bailleurs de fonds, les institutions de Bretton Woods. Voilà comment est-ce que l'OCEP est né. Bon, maintenant, l'OCEP s'est mis à travailler. Pour travailler, l'OCEP devait avoir deux moyens.
Oui, mais David, le professeur David évoque l'inefficacité de l'OCEP sur terrain.
C'est là où je suis en train d'arriver.
D'accord.
Donc l'OCEP devrait s'occuper, de la phase de prévention. C'est-à-dire, dans la lutte contre la corruption, on ne vient pas, on commence à arrêter les gens sans qu'ils soient prévenus. Dans les règles de la bonne gouvernance, on n'applique pas le principe juridique qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Il faut commencer par avertir les agents, vulgariser, sensibiliser, éduquer. Et dès que vous avez terminé avec la première étape, vous pouvez passer à la seconde étape, qui est celle de détection, enquête et investigation, pour attraper les gens qui n'ont pas pu respecter les dispositions du DICODE. Et à l'issue de cette deuxième étape, on peut enclencher la troisième étape, qui est celle de la répression. Ouverture d'action disciplinaire, au cas où il y a des preuves suffisantes qui attestent que l'agent a réellement pris l'argent de l'État, s'est mal comporté, a corrompu ou a été corrompu. Alors, sur le plan administratif, on active l'action disciplinaire et en pénal, on ouvre l'action qu'on appelle judiciaire. Et ce sujet doit comparaître devant les cours et tribunaux. Voilà les trois étapes qui interviennent. Alors, d'où vient l'OCEP? L'OCEP a été chargé de prévenir, de faire la prévention de la corruption. C'est-à-dire, la justice ne peut pas faire la prévention et la répression. Ainsi, on a réparti les responsabilités en deux lots. Le premier lot concernera la prévention, on donne à l'OCEP. Et quand on a attrapé, on envoie à la justice pour des sanctions pour la répression. Donc ça, il faut faire la part des choses entre les deux aspects. Or, l'aspect qui a fait défaut et qui continue à faire défaut aujourd'hui, c'est la détection et investigation. Ça suppose des gros moyens. Et quand vous avez même attrapé les agents dans des infractions de corruption, c'est qu'on a toujours remarqué, quand on les envoie le défaire devant la justice, dossier sans suite. Donc c'est pour vous dire,
alors la justice, quand on fait déférer devant la justice, c'est plus votre affaire.
Oui, voilà. La justice semble travailler pour son compte, donc la lutte contre la corruption sera menée par la justice d'une manière isolée, singulière. L'OCEP aussi fait ses rapports d'une manière singulière, la détection, investigation également d'une manière partisane ou isolée. Conséquence, l'absence de coordination a fait que la lutte contre la corruption dans notre pays puisse échouer. Les magistrats, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à éradiquer la corruption à leur niveau. D'ailleurs, c'est rare de trouver un seul dossier sur un cas de corruption dans nos cours et tribunaux. Nous avons mené des enquêtes. La corruption a pour remède la corruption. Quand il y a un dossier de corruption, la première des choses que le magistrat demande, est-ce que vous reconnaissez, vous avez vraiment détourné ce montant? Oui, j'en ai détourné. Vous en avez encore combien à la maison? J'ai encore 2 milliards à la maison. Bon, d'accord. Vous amenez les 2 milliards et on vous donne votre liberté conditionnelle. Et on vous dit, ne regardez plus derrière, partez, partez. Le problème est, il n'y a pas de dossier sur les pratiques de corruption dans nos cours et tribunaux. Ça, je vous rassure. Et quand nous avons fait des saisines de justice par le truchement du procureur général de la République, rares sont les réponses que nous avons obtenues dans ce sens-là. D'où la nécessité d'un organe de coordination des activités de lutte contre la corruption pour pouvoir mettre tous les services impliqués dans la lutte contre la corruption, avoir une même compréhension commune, avoir le même cadre légal, là je reviendrai encore là-dessus, il n'y a pas de loi pour lutter contre la corruption dans notre pays. Le code pénal est lacunaire, je pèse mes mots, le code pénal est lacunaire en matière d'infraction des corruptions. Il n'y a que 5 articles seulement qui peuvent aller à la corruption. Vous avez la loi 05 de 2005, également lacunaire en matière de lutte contre la corruption. Or, selon les conventions que nous avons signées avec nos partenaires et les organismes internationaux de lutte contre la corruption, la Convention des Nations Unies, nous avons ratifié. La convention, le protocole d'accord de la SADC, nous avons également signé et ratifié. Il ne reste que la Convention des Nations Unies de l'Union africaine sur la prévention et la répression de la corruption qu'on a déjà signé, qu'on n'a pas encore ratifié. Il est prévu.
Est-ce qu'au Parlement, il n'y a pas des projets de loi en souffrance dans ce sens?
Il y en a. Nous avons introduit un projet de loi. Il y a même un projet de loi aujourd'hui sur le bureau du ministre de la Justice. Il est là. Allez sur son bureau, vous trouverez un projet de loi. Et ce projet de loi vient de faire 10 ans depuis que nous l'avons élaboré. Ce projet de loi est là. Il y a une pesanteur terrible. Les gens ne veulent pas tout ce qui vient remettre de l'ordre. Et ils préfèrent rester dans cette cacophonie dont nous mesurons aujourd'hui la taille des conséquences au niveau du Parlement.
La preuve est que tous les auditeurs qui ont appelé, chacun a son exemple sur la corruption, et oui, l'auditeur de Kidou a tablé sur l'impunité, ce qui est à la base vraiment de...
Oui, oui. Alors, la proposition de notre dernier correspondant est correcte. Nous avions organisé un forum national sur la lutte contre la corruption depuis 2009. Il y a eu 104 résolutions qui ont fait l'objet d'une stratégie de lutte contre la corruption. Nous avons proposé qu'il y ait une commission indépendante de l'éthique et de lutte contre la corruption, qu'il y ait une agence gouvernementale de lutte contre la corruption qui allait s'occuper des questions de détection et investigation. La commission, elle allait s'occuper seulement de l'orientation de la politique de lutte contre la corruption, comme la dernière instance, la haute autorité anticorruption, qui allait réguler les autres structures existantes pour qu'il n'y ait pas dérapage. Nous avons proposé ces 5 projets de loi.
Professeur, ça fait 10 ans.
Au niveau du gouvernement,
ça fait 10 ans.
Je vais y arriver.
Oui.
On a proposé les 5 projets de loi, mais le gouvernement a fait un tri. L'agence gouvernementale, le projet de loi a été déclaré irrécevable au niveau du Parlement. Il a été introduit d'ailleurs par l'honorable Thomas Lokondo. La proposition du projet de loi portant déclaration de patrimoine que l'OCEP a introduit a été rejetée par les parlementaires qui ne voulaient pas du tout déclarer leurs avoirs au motif ils vont aliéner leur immunité parlementaire. Ils ne voulaient pas dépendre de l'exécutif. Vous comprenez cette complicité de la chose? Et si les gens demandent au président de la République entrant de pouvoir élaborer un code de conduite de l'éthique institutionnelle. Non, c'est induire le président de la République en erreur. Le code existe, il est là, vous le voyez. Il concerne toutes les institutions de l'État,
la République, oui.
Tous les agents publics de l'État. On va dire encore au président, élaborer un code. Non, le problème
n'est
pas... On
va pas faire le même travail.
Le problème n'est pas des codes. Le code existe, un beau code, travaillé par des experts, des Nations Unies, de interministérière de la République démocratique du Congo, le code est là, il est valable.
Il faut l'appliquer.
Mais il faut veiller maintenant à sa mise en application. C'est ce qui reste. La commission indépendante, là le président de la République a raison. Cette commission qui n'a pas été mise en place, c'est le moment de pouvoir mettre en place une commission indépendante de l'éthique et de lutte contre la corruption pour lutter contre la fraude et contrebande et ainsi de suite. Celle-là, elle est indispensable. Et au sein de cette commission seulement, ne peuvent siéger et les institutions publiques de l'État, le monde des affaires et la société civile. Un organe indépendant qui serait au sommet et qui ferait et qui rendrait son rapport au Parlement.
Retournons au standard, professeur, je reviendrai à vous tout de suite. Monsieur Otchimba, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la question ou quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité? Nous parlons de la corruption, de la problématique de la corruption en RDC.
Merci. Ma question, une de mes questions avait déjà été abordée par le professeur. Maintenant, j'ai une autre question. J'espère bien que l'invité, qui est professeur d'université, a même été contacté par le gouvernement pour parler des problèmes qui est en vogue maintenant. Donc, avec les scandales qu'on a actuellement, des corruptions aux élections sénatoriales, je ne sais pas comment ça va se passer aux élections de gouverneur. Que propose alors l'OSTEP et Observatoire, j'ai même le code devant moi, Observatoire...
De surveillance et la corruption de l'éthique.
C'est comment encore? Observatoire
de surveillance et de la corruption.
De la corruption
et de l'éthique professionnelle. OSEP. OSEP.
Voilà. Ah, oui. Merci, professeur. Que propose l'OSEP pour le contrôle de l'intégrité morale des gouvernants? C'est ça ma question.
Merci beaucoup pour ta question. Donnons cette fois-ci la parole à Didier, à Marcel Didier qui est à Kananga. Marcel, bonjour.
Bonjour Tati, Marcel Didier, plutôt à Luisa, dans les Kassai Central.
Vous êtes à Luisa, merci d'Éric, on a rectifié. Marcel Didier, vous intervenez depuis la ville de Luisa. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Pas du tout une question, monsieur Tati, mais peut-être un apport.
Une contribution. Une
question par rapport, parce que presque toutes mes questions, il en a déjà balayé. Mais moi, j'étais en train de penser, monsieur Tati, que les causes de la corruption sont à rechercher ailleurs. D'ailleurs, c'est tellement honteux parce que vous allez voir que la corruption tue plus que le sida, a souligné Pierre Payan. Il dit que le sida peut tuer un individu, mais la corruption tue presque toute la société, monsieur Tati. Alors, vous allez voir que le prétexte de dire que la corruption est due à la pauvreté, à la modicité des salaires, à l'impunité, non, nous ne pouvons pas aller là-bas. La corruption, pour que nous puissions éradiquer à ces grands fléaux, il aurait fallu d'abord qu'on puisse nettoyer les mentales, monsieur Tati. Il aurait fallu aussi que l'on prenne conscience à chacun en ce qui le concerne. Il aurait aussi fallu qu'il y ait vulgarisation. Pas seulement la vulgarisation et on se limite là-bas, mais il faut qu'il y ait aussi les suivis. Et aussi, pour que nous puissions arriver à lutter efficacement à ces grands fléaux, il aurait fallu réellement que l'on recourt à la justice, monsieur Tati. Comment voulez-vous que si on veut parler de la modicité des salaires, vous allez trouver un professeur d'université, par exemple, mais qui va être corrompu. Et si c'est une fille, vous allez voir qu'il peut même arriver à corrompre, à utiliser. Vous voyez, donc, cette morale, cette immoralité-là peut arriver jusqu'au point que même cette fille-là puisse donner, même arriver à donner même son corps. Donc, si nous prenons encore la dimension de l'impunité, je pense beaucoup plus que ça sera beaucoup plus meilleur dans ces grands pays où la corruption est toujours à la une de tout ce que nous faisons.
Voilà. Merci beaucoup Marcel Didier. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Luisa dans les Kassai. Revenons à Kinshasa pour donner la parole à Prisca. Bonjour Prisca, quelle est la question que vous avez à poser à notre invité rapidement? On n'a plus assez de temps.
Bonjour la professeure Madame Bali.
Bonjour Madame.
Oui, je voulais parler sur le déjour de la corruption. Nous savons que le CEP parle beaucoup de la corruption à vulgariser partout en République démocratique du Congo. Mais je lis sur le programme du chef de l'État pendant les 100 jours, il parle sur la création d'une structure de la corruption et il prend des mesures appropriées, notamment sur la création de structures de lutte contre la corruption. Alors, possible. Le président de la République veut créer encore une autre structure sur la lutte contre la corruption et le blanchissement fiscal. Quel sera alors le travail de l'OCEP? Il travaillera en collaboration ou l'OCEP restera à sa place pour la lutte contre la corruption?
Merci beaucoup, Prisca. Je rappelle que vous intervenez depuis Kinshasa. Donnons la parole au dernier auditeur qui est à Kamina. Son nom, c'est Isaac. Monsieur Isaac, bonjour.
Bonjour, monsieur Tati.
En quelques mots, oui, quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, moi, c'est la contribution juste. Je me
fallait rapidement.
Pour lutter contre la corruption, il faudrait quand même faire la suivi de toutes les recommandations qui ont été faites par toutes les structures créées par l'État. Parce que nous voyons que il y a beaucoup de recommandations, mais qui n'ont pas connu de suivi. Alors, s'il y a un suivi régulier dans toutes ces structures-là, je pense qu'on peut combattre la corruption à la base.
Merci beaucoup pour ta contribution. Professeur, tu vois, vous voyez la question d'Otimba. Otimba de Kinshasa qui voulait savoir, au fait, quelle peut être la contribution d'OCEP dans le processus d'élection des gouverneurs et des sénateurs.
Merci, Tati. Je n'aimerais ne pas être théoricien en la matière et vous demander de recourir à l'article 7.
Je l'ai lu.
Des codes de conduite. Vous pouvez me le lire.
Il a dit ceci en son article 7. L'agent public de l'État ayant des responsabilités en matière de recrutement, des nominations ou des promotions doit veiller à ce que les vérifications appropriées de l'intégrité morale du candidat soient effectuées conformément à la loi. En cas de doute sur une situation donnée, il doit requérir l'avis de son supérieur, alors qu'il doit vérifier la qualité, la moralité des gens qui se portent candidats.
Vous comprendrez alors le bien fondé de la décision du chef de l'État. Ça s'inscrit dans le cadre de l'article 7. Les gens qui lui ont méconnu la qualité de pouvoir différer, il n'a pas dit, il n'a pas suspendu les résultats, mais différer l'installation, c'est permis, c'est accepté par le décret 017/2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Il est là en tant que garant du bon fonctionnement de la nation. Il ne va pas accepter de voir qu'on engage un criminel qui va retourner son arme contre la population. Et il sait que c'est un criminel. Le président de la République paye ici opposer son droit de veto.
C'est un travail qui doit se faire en amont, en aval.
En amont et en aval, à tous les échelons. À tous les échelons. Lui, le président de la République, c'est un agent public de l'État. En cas de manquement grave, ça pouvait nous conduire à la situation qu'a connue le Maghreb, le prétend arabe. Vous vous en souvenez, non? Un sujet simple s'est fait immoler par le feu, parce qu'il y avait des revendications commerciales à faire, et tout le village, tout le pays s'est embrasé. Et s'est embrasé de manière à ce que la thématique de la corruption devenait le point de chute des revendications. Le président Félix Tshisekedi avait pleinement raison de prendre cette forte décision de différer pour éviter que ce qui est arrivé à nos amis du Moyen-Orient, de Maghreb, ne puisse pas arriver en République démocratique du Congo. Déjà, au Kassai, on a brûlé, à Kinshasa, on a détruit des bâtiments, et vous avez voulu que le président reste bras croisés en disant, écoutez, l'organe, le conseil interministériel, bon, c'est juste un organe de consultatif ou quoi. Non. Là, il serait un président irresponsable. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fallait faire, et l'article 7 le couvre amplement. Alors, maintenant j'en arrive à celui qui pose le problème de l'OCEP. Quel sera l'essor de l'OCEP si on crée une structure? Je vais vous informer, madame qui a parlé tout à l'heure, c'est l'OCEP qui est la première structure de l'État à avoir reçu la mission de prévenir les antivaleurs, les pratiques de corruption. Nous avons fait ce travail en vulgarisant dans le 11 provinces de jadis, mais nous avons remarqué qu'il y avait une résistance. Chaque fois qu'on a vulgarisé, la corruption ne disparaissait pas. L'OCEP a fait alors une proposition au gouvernement, est-ce qu'il ne serait pas temps de convoquer un forum national sur la lutte contre la corruption?
Est-ce que vous pensez que ça sera le remède des chocs contre la corruption, professeur?
Nous y avons recouru, on a convoqué le forum, 450 délégués, c'est pas un forum d'experts, enfermés dans une petite chambre, ou dans une cave en train de cogiter sur la nouvelle structure qui viendra. Non, on a invité 450 délégués, des spécialistes de différents secteurs de la vie nationale, et là on a dégagé 104 résolutions. Ce sont ces 104 résolutions qu'on a appelé la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui a été déposée au niveau du gouvernement. Donc pour moi, j'estime que la stratégie est là. Mmh. Les projets de loi anticorruption sont là. Ce qui font défaut, c'est peut-être la volonté politique
pour appliquer ces résolutions.
Voilà. Et le président en a manifesté l'initiative. Puis c'est le président lui-même de la République, le président actuel, qui a dit avec détermination, il s'engage à lutter contre la corruption et il utilisera lui-même, j'en prête encore son expression, toutes les méthodes démocratiques possibles. Et il n'y a pas la meilleure méthode démocratique qui puisse être sans qu'il y ait d'abord une loi spéciale anticorruption. Tout ce que nous allons faire, créer des commissions, créer encore une autre structure à côté, la brigade anticorruption, c'est bon. Mais vous n'avez pas une loi cadre, là où toutes les questions sont définies et suivies directement d'autres lois intermédiaires qui vont permettre maintenant de mettre en application les résolutions, la doctrine qui se trouve dans la loi cadre.
Nous comprenons que la thérapie de choc des luttes contre la corruption et la mise en place d'une loi cadre des luttes contre la corruption,
plus la volonté,
également son application également sur terrain.
La volonté politique.
Je le considère comme votre dernier mot, professeur. Merci d'avoir été avec nous dans Okapi Service. Et donc, les rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Merci beaucoup, c'est gentil d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service.
Merci beaucoup, Tati.